Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, je dis bien en public, au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré à la rentrée littéraire et à 5 des quelques 520 nouveaux romans annoncés avec Olivia de Lamberterie, Duel, Nelly Capriélian, des Arts Occuptibles, Frédéric Becbédé du Pays Basque et du Figaro Magazine et Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. On parle donc ce soir de romans signés Christine Angot, Philippe Genada, Marc Duguin, Amélie Nothomb et Santiago Amigorena, et en conseil, je l'espère, de quelques premiers romans ou deuxièmes romans. Dans le courrier de la semaine, Marie Glemmet remercie Olivia d'avoir conseillé la réédition cet été de Des Jalna de Mazo de la Roche en omnibus. Jalna restera toujours une ouverture à la vie pour l'adolescente que j'étais et m'a donné le goût de la lecture. L'histoire de ces femmes magnifiques m'a fait comprendre ce que je refuserai plus tard. Isabelle, fidèle auditrice de Brest, s'adresse aussi à Olivia, qui a déclaré au masque ne pas aimer les récits de voyage. Pour la réconcilier avec ce genre, je lui suggère de découvrir le style plein d'humour, d'autodérision et de tendresse envers le genre humain d'Hervé Bellec, écrivain du Finistère Nord que tu ne connais pas. Que tu vas découvrir, je lui conseille Les sirènes du Transsibérien de Brest à Vladivostok, c'est chez Géorama, mais aussi Garce d'étoiles aux éditions Bretagne qui relate un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça, tu prends, hein.
Ah, bien sûr.
Muriel Casteran a acheté sur les conseils du masque Le silence de Don DeLillo chez Actes Sud, dont on avait dit beaucoup de bien. Et là, oh déception, nous dit cet auditeur, j'ai ravalé mon enthousiasme, j'ai trouvé les dialogues des personnages ampoulés. Allez, sans rancune, j'adore vos débats. À bientôt sur les ondes, avant la fin du monde. Philippe Laporte de Montauban a adoré, comme nous, d'ailleurs, les mémoires de David Niven chez Séguier, qui ont enchanté son mois de juillet. L'humour de Niven est délicieux et c'est cette pudeur devant les choses graves qui rend élégant le style de cet acteur-auteur. Paul Larreia de Pau, qui nous remercie pour nos masques estivaux, regrette à propos de Ivo et Georges, de Patrick Rothman, c'est chez Grasset, que les critiques ne se soient pas davantage étendues sur les regrets de Montand et de Semprun concernant leur action au sein du Parti communiste dans les années 50, et plus précisément les remords de Semprun concernant son attitude pendant les procès de Prague. Enfin, Charlotte Maubray s'amuse d'entendre les critiques du masque râler contre la longueur des livres. « Je vous rappelle, nous dit cette auditrice, qu'au XVIIe siècle, les romans faisaient 7000 pages » et les nouvelles, 400 pages. Vous ne le saviez pas, ça. Elle vous propose donc de conseiller dorénavant un passage, un chapitre, une phrase à lire par-dessus tout dans une œuvre quand elle vous paraîtra trop longue. Vous contribuerez peut-être à créer un genre nouveau. Donc, vous ne me dites pas ce soir que le roman de Philippe Genada, qui fait 700 pages, est trop long. Hein. Allez, on commence avec Le voyage dans l'Est, le nouveau roman chez Flammarion de Christine Angot, qui revient sur le drame qu'elle a vécu adolescente et qu'elle a déjà traité plusieurs fois, plus récemment dans Un amour impossible, mais jamais, selon moi, avec une telle netteté, c'est-à-dire l'inceste. Elle raconte comment son père, un bourgeois qui avait refait sa vie après avoir couché avec une femme qui n'était pas son genre, comme on dit, la mère donc de Christine Angot, a abusé d'elle, ce père, entre ses 13 et 16 ans. Elle raconte surtout comment elle a longtemps cédé à cet homme dont l'emprise était si forte qu'elle a attendu d'avoir 28 ans pour décider de ne plus jamais le voir. Un père, aujourd'hui décédé, dont j'ai appris, page 159, et je dois avouer non sans sidération, qu'il a poussé sa fille, donc sa victime, à tout raconter dans un livre, deux points, ouvrez les guillemets, « Tu devrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi », lui dit le père. C'est intéressant, c'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Rien que ça, ça demande...
C'est glaçant, oui.
C'est assez glaçant, mais ça, elle ne l'avait jamais dit. Donc, en fait, si je comprends bien, depuis le début, l'inceste qu'elle a subi de son père lui a été presque commandé pour la littérature par le même bourreau. Nelly
Non, bah là, on voit quand même qu'on a affaire à un grand mégalomaniaque. Le père, je pense qu'il ne se doute absolument pas qu'elle va écrire les livres qu'elle va écrire. Ce qui est très, très beau dans le texte, c'est qu'on voit le moment où Christine Angot devient Christine Angot. C'est-à-dire, à un moment donné, elle décroche son téléphone, elle a son père au téléphone, et elle lui dit, je me rappelle plus de ses termes exacts, mais en gros, elle l'envoie balader, et elle lui dit non.
Mais elle lui dit non très tard.
Alors, elle lui dit non un peu au téléphone, elle continue. Alors ça, c'est passionnant, voilà. Pour moi, c'est vraiment... Et ce qui en fait, à mon sens, un très grand livre, et voir l'événement de la rentrée, c'est cette puissance qu'elle a à montrer, en refouillant encore l'inceste, comment, non pas un agresseur établit une emprise sur la victime, parce qu'on a beaucoup parlé en parlant de consentement, entre voilà la Familia Grande, entre le livre de Camille Kouchner, le Vanessa Springora, il y a eu comme ça tout un débat sur le consentement, enfin tout un débat en tout cas on en a parlé, c'est quoi le consentement, c'est quoi les zones grises, tout ça. Là elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elle elle dit au fond comment une jeune fille n'arrive pas à dire non alors qu'elle ne veut pas. Et elle montre comment tout son entourage, et c'est là où à mon sens le livre, les 100 dernières pages, c'est là où il prend une puissance, une montée en puissance complètement inouïe. Elle dit comment son entourage en fait n'intervient pas, parce que finalement quasiment tout le monde savait. La mère n'appelle pas la police, elle croise sa mère au salon du livre avec son père, alors que la mère est au courant de ce qui s'est passé, la mère est avec son compagnon, il se rend compte comme si c'était des gens tout à fait normaux, enfin qu'il se passait rien du tout, la mère ne s'alerte pas. Christine Angot en parle, enfin ça je ne le savais pas, donc elle en parle à sa demi-sœur. La femme de son mari, de son voilà lapsus de son père est au courant, personne n'intervient. Il y a cette scène qui était dans un livre précédent. Ce qui est très très beau, c'est que c'est un livre miroir de toute son œuvre. Elle reprend des scènes
dont l'écriture a changé, je trouve.
Dont l'écriture
c'est
a changé,
ça qui est, parce
elle,
que
elle dit...
Je rappelle quand même à nos auditeurs que Le Masque avait été très sévère pour les précédents livres de
Oui, alors trop sévère à mon sens. Mais bon, beaucoup trop sévère. Moi j'ai toujours...
Non, pas un amour impossible, oui. Mais le roman d'avant...
Non, mais même L'Inceste, qui était un livre très très fort, elle est toujours dans cette recherche de moi. Pour moi, c'est un livre sur la collaboration. C'est un livre sur la soumission. C'est un livre sur comment, face à quelqu'un qui a un semblant d'autorité, parce qu'il est prof en fac, il a un côté très dominant, le père, comment tout le monde va s'écraser, comment personne n'intervient, comment on a peur du scandale, comment on a peur de la scène, comment on regarde ailleurs et on laisse au fond la victime se dépatouiller avec son agresseur. C'est la fameuse scène de Claude, son mari, qui est sous sa chambre, ils font chambre à part, et il entend le lit grincer, alors qu'il sait très bien que le père a abusé de la fille dans le passé, qu'elle est seule avec son père, que probablement ils recouchent ensemble, et il se dit, bah maintenant elle a 20 ans, qu'elle se débrouille toute seule, elle doit le vouloir, et il n'intervient pas.
Frédéric.
Alors, bon, moi, c'est pas un secret, j'aimais pas tellement les versions précédentes de ce traumatisme, je trouvais trop répétitive... Quelque chose n'allait pas, et effectivement, c'est évident que ça n'allait pas. Et là, le style, comme le dit Jérôme, a complètement changé. C'est d'une sobriété, de quelque chose qui le rend extrêmement implacable, très violent. Les 100 premières pages, moi je trouve, sont parfaites. C'est vraiment, du point de vue littéraire, très au-dessus de Vanessa Springora et Camille Kouchner. Là, on est dans une ambition littéraire, authentique. C'est pour ça que ça me gêne ce que tu dis, parce que tu en fais un témoignage qui est tout ce que Angot ne veut pas qu'on fasse. C'est vraiment de la littérature.
Pardon, juste Frédéric, je vous prie, pardon, je dis tout ça parce que je ne voudrais pas qu'on pense que ce texte est une espèce d'extension de sa prise de parole.
Oui, parce que c'est la 5e ou 6e version du même récit.
Ça va plus loin que sur l'emprise, ça va beaucoup plus loin. Mais bien sûr, il y a des dialogues hallucinants. Voilà, un art du dialogue.
Tout est, en fait, c'est un art du souvenir. C'est-à-dire que, il y a des moments où c'est flou, elle dit je ne me souviens pas, et puis juste après elle décrit un détail de la chambre, la couleur de la veste de son père, je ne sais pas. Donc elle écrit comme un photographe qui fait le point. De temps en temps c'est flou, de temps en temps c'est net. Et ça c'est prodigieux. Je suis très très heureux pour Christine Angot qu'elle ait réussi enfin à raconter cette histoire.
Olivia.
Moi je trouve que c'est aussi un très grand livre. J'ai relu L'Inceste, qui a été écrit en 1999, qui était un livre enragé de colère, très fiévreux. Et d'ailleurs, je me suis posé la question du retentissement de ce livre, en me disant que la société à l'époque n'était quand même pas prête à entendre ce qu'elle disait. Parce que certes, il y avait eu du retentissement, mais rien par rapport à ce qui s'est passé avec la Familia Grande, qui est un plus de l'ordre du témoignage par
et là,
rapport
on est
à ce livre-là.
Neuf mois exactement après le Camille Kouchner. Hein.
Absolument. Donc vraiment, ça pose une question, peut-être aussi sur le statut de la victime. Hein. Peut-être que Christine Angot n'était pas une victime plaisante, comme si d'ailleurs il faudrait que les victimes soient, en plus de ce qu'elles ont subi, plaisantes. Là, ce livre
elle
est le contraire.
Elle répétait elle-même les phrases beaucoup, « je suis folle ». Ouais,
bien
c'était,
sûr.
C'était alors, quelque chose dont elle jouait. Hein.
Je ne sais pas si elle en jouait, je pense qu'elle en était prisonnière.
Oui, oui, oui.
Là, ce livre est le contraire de l'inceste dans la forme. Moi, je trouve que ça fait penser aux reconstitutions d'une scène de crime, avec effectivement les détails, avec les descriptions de l'hôtel où ça s'est passé. Et je suis d'accord avec tout ce que dit Nelly. Et je trouve que ce qui est sidérant aussi dans ce livre, c'est de découvrir les stratégies de survie d'une petite fille. Parce que c'est une petite fille, elle sort de sa cinquième. En plus, à l'époque, on était beaucoup plus une petite fille et un enfant qu'on est aujourd'hui. Et tous les parents savent aujourd'hui qu'une petite fille qui rentre en quatrième, c'est une petite fille, une préadolescente. Et ce qu'elle raconte, ce sont les stratégies de survie pour continuer à aller à l'école, à respirer, à avoir des amis, et puis plus tard à faire
c'est
des
plus,
études.
C'est plus tard qu'elle va craquer complètement.
Bien sûr. Et ces stratégies de survie, qu'est-ce que c'est ? C'est soit se taire, parce que finalement se taire, d'abord les mots ne sortent pas, et en plus se taire, c'est faire comme si ça n'existait pas. Alors que si elle le raconte, ça veut dire qu'elle donne vie par ses mots à quelque chose d'insupportable. Donc j'ai l'impression que toute l'enfance de Christine Angot a été passée à refuser un réel qui était insupportable, et qu'aujourd'hui l'enjeu littéraire, c'est donner mot à quelque chose qu'elle a profondément dénié. Et puis, il y a une autre chose qui s'ajoute à ça, c'est la dimension sociale. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui voulait avoir des rapports normaux avec son père et qui est reléguée à une enfant de seconde zone, d'où la scène du codec qu'elle a déjà racontée, qui est racontée ici
qui,
encore,
qui était dans Un amour
et qui est
aussi
extraordinaire. C'est un livre sidérant, glaçant et extraordinaire.
Arnaud.
Ce qui est formidable, si vous voulez, en vous écoutant, c'est que c'est pas Christine Angot qui a changé. Je suis pas du tout d'accord pour dire qu'elle ait changé de style. Elle écrit toujours comme elle a toujours écrit.
Non.
Si, si. Vraiment là-dessus.
Je trouve que ça se voit.
Elle a plusieurs fois, évidemment. On se dit, elle va encore nous raconter son inceste. Mais ce qui est différent aujourd'hui avec ce livre, c'est pas elle qui a changé. C'est nous qui avons changé. C'est la société qui a changé. Et surtout avec le livre de Camille Kouchner, bien évidemment. Je me rappelle en janvier 2021, au début de cette année, après la sortie du livre de Camille Kouchner, Christine Angot était l'invitée de Léa Salamé. Elle avait dit des choses très fortes là-dessus, en disant que l'inceste, ça atteignait la bouche d'un point de vue sexuel, bien évidemment, mais aussi, comme dire, ça empêchait de dire, elle n'arrive pas à dire non à son père. Et donc, si l'inceste est un thème littéraire aussi important, c'est que c'est là où il faut trouver les mots pour dire. C'est ça qui fait la particularité de l'inceste. Et alors, l'affaire Camille Kouchner nous a montré une chose, c'est que ce sont des gens, comme l'est le père de Christine Angot, ce sont des gens suréduqués qui pratiquent
et
l'inceste. Et c'est marrant quand il lui dit « tu pourrais écrire », mais il lui parle de Robe Grillet. Il lui dit « tu devrais lire Jean de Robe Grillet qui vient de sortir, tu devrais écrire comme Robe Grillet ». Là, elle dit « mais c'est un con, évidemment que je vais pas écrire ça comme Robe Grillet ». Et évidemment qu'elle n'écrit pas ça comme Robe Grillet, mais il faut voir que quand même, depuis l'inceste, depuis 1999, c'est-à-dire plus de 20 ans, Christine Angot, parmi tous les écrivains contemporains, est celle qui a subi le plus grand mépris de la critique littéraire.
Oui, absolument,
mais le
d'accord.
plus grand mépris.
Ce qui est très grave,
on a
ce qui est
tout
très grave,
entendu ouais. sur elle. Elle a eu le droit à tout, et d'ailleurs, elle en parle. D'ailleurs,
oui,
elle y revient.
Fin,
encore.
Parce que ça participe d'une forme
et
de collusion avec l'agresseur.
Elle a bien raison d'y revenir.
Oui.
Donc, encore une fois, ce n'est pas elle qui a changé, c'est la société qui a changé et qui va changer. Et je suis sûr que ce livre n'aura pas du tout le même accueil que les autres, et en particulier parce qu'il y aura eu le livre de Camille Kouchner auparavant. Mais juste ça, hein, parce qu'elle encore, pour moi, ça a toujours été un grand écrivain.
Oui.
Elle s'est toujours coltinée ce problème de dire ça. Et encore une fois, moi, je me souviens de critiques littéraires qui disaient « mais de toute façon, c'est inceste, elle l'a inventé ». hein, puisqu'elle fait de l'autofiction, c'est une fiction. Mais bien sûr, et d'ailleurs, il nous a quitté récemment, mais elle le racontait, ça, à propos de Raphaël Sorin, éditeur qui est mort récemment, qui disait ça, qui, elle l'avait raconté en 1999 dans l'Inceste. Et je l'ai entendu dans d'autres, dans la bouche
quoi.
D'autres critiques littéraires.
Ouais.
Et donc, si vous voulez, là, il y a vraiment un rétablissement, non seulement de la vérité de l'inceste, mais aussi de la réalité du talent d'écrivain de Virginie Rimbaud.
Ça sera le mot de la fin.
Et qu'elle soit énervée ou calme,
attendez,
on
a d'autres livres à évoquer, pas uniquement le livre de Christine Angot, que Le Masque et la Plume, à l'unanimité, conseille. Il faut le signaler, c'est Le Voyage dans l'Est, et c'est chez Flammarion. Allez, un livre, je le disais, monstre, 750 pages, c'est Au printemps des monstres, aux éditions Mialet-Barreau, signé Philippe Génada, l'auteur de la Serpe, prix Femina 2017. Cette fois, il enquête sur un fait divers de mai 64, qui est la date d'ailleurs exacte de naissance de Philippe Génada, le meurtre d'un garçon de 11 ans, Luc Taron, retrouvé étranglé et mutilé dans les bois de Verrières-le-Buisson. L'assassin, qui signe l'étrangleur numéro 1, promet d'autres enlèvements si une rançon ne lui est pas versée. Suspecté, arrêté, Lucien Léger, puisque c'est son nom, a beau clamer son innocence, il est condamné à la perpétuité. Il sera finalement libéré en 2005 à 68 ans et il mourra 3 ans plus tard. Bref, Génada mène l'enquête à sa manière. Je ne vous dis pas évidemment ce qu'il pense exactement de la culpabilité ou de l'innocence de Léger, c'est-à-dire une manière toujours ultra subjective et remplie de ces fameuses parenthèses qui sont désormais sa marque, avec en couverture du livre la photo non pas de Lucien Léger mais de sa femme Solange, qui a autant fréquenté les hôpitaux psychiatriques que son mari, les prisons. Ce qui est marrant, c'est que dans le livre, elle n'apparaît, je le dis pour Nelly, qui n'est pas allée jusqu'au bout de sa lecture, non, elle n'apparaît que dans la dernière, vraiment à la dernière partie, cette Solange, du roman. Arnaud ?
Si vous voulez, il y a quelque chose là. Ça fait un moment maintenant que Philippe Janeda pratique ce genre de docu-enquête, roman-enquête. Maintenant, on a forgé ce mot valise.
Très gonzo, hein, très personnel, très
très subjectif. Oui, très personnel. Pas gonzo, mais très personnel. Et on est habitué à ce qu'il soit, et c'est le plaisir aussi qu'il soit dans le... Alors, c'est vrai que, comment dire, un épisode de l'inspecteur Derrick par rapport à Philippe Janeda, c'est Bugs Bunny, hein. C'est que là, il faut vraiment... c'est très, très, très lent. Mais ce qui est formidable, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à un écrivain heureux. Et que son bonheur de travailler... d'écrire, de raconter cette histoire, de fouiller dans le moindre détail.
De faire des digressions.
Son bonheur est pur, il est entier, et en tant que lecteur, vous le ressentez, et vous êtes même, vous-même heureux de lire un écrivain heureux. Ce qui est drôle, c'est qu'il raconte qu'il avait promis à ses éditeurs un roman court et à l'os. Là, on peut dire que c'est tout à fait le contraire. Et en même temps, ça raconte à la fois toute la France de ces années-là, il y a quand même le spectre de Modiano qui plane de manière magnifique sur tout ce livre. C'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'il a relu tous les romans de Modiano pour trouver des éléments de coïncidence, etc. On vous raconte pas, mais enfin...
La place de l'étoile, voilà. Je le rappelle, c'est 1968.
Voilà. Et donc, il y a des personnages absolument incroyables. Celui de la femme de Lucien Léger étant vraiment incroyable. Mais il y a d'autres comparses dans cette histoire dont il va fouiller vraiment tous les détails. Et on voit comment on arrive à une erreur judiciaire absolument incroyable, avec un nombre de dérapages partout.
Oui, t'es en train de livrer complètement le secret du livre.
Non,
hein,
bon. Non, parce que
j'ai fait exprès de pas le dire.
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, enfin, oui. C'est ce qu'on dit en général quand on a fait une bêtise.
Voilà.
C'est beaucoup plus compliqué que ça, Olivia.
Oh ben moi, j'adore. J'ai eu plus de mal à rentrer dans celui-là que dans les précédents. Je trouve que le début est assez lent. Mais ça m'a fait penser à un passage dans un des livres précédents, je ne sais plus lequel, dans lequel Génada expliquait pourquoi aujourd'hui les enfants ne pouvaient plus lire Le Club des Cinq. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait été obligé de faire des versions réduites. Parce qu'il disait que dans Le Club des Cinq, les enfants, ils mettaient 50 pages à préparer le sac à dos avant le début de l'aventure. Alors, il fait un peu ça, Génada. Il met très longtemps à préparer le sac à dos. C'est pas une promenade de santé. Il faut un peu y aller avec son piolet et des bonnes chaussures. Mais une fois que vous êtes rentré dans le livre, il m'a rendu folle. Moi, j'avais cette enclume, ça pèse je ne sais pas combien de kilos.
Oui, c'est un bon kilo.
J'avais cette enclume dans mon sac de plage et je l'ai promenée. J'ai mis 10 jours à le lire, hein. C'est très très long.
Oui, c'est
mais
très long.
Ça m'a rendu dingo. Parce que d'abord, il y a le côté jouissif de tout d'un coup, Geneda qui prend sa voiture et qui voit que c'est absolument impossible que le meurtrier arrive à 4 heures du matin sur le lieu du crime. Il dit même avec une brouette de la préhistoire, il y a 7000 ans, on ne peut pas mettre autant de temps pour arriver sur le lieu du crime. Vous avez l'auteur qui tout d'un coup découvre le dossier judiciaire et qui voit que la première lettre à son avocat, il dit qu'il est innocent, alors que tout le monde pense que pendant des années, il a dit qu'il était coupable. D'ailleurs, le grand coupable du livre, c'est l'avocat Maurice Garçon, oui. À mon avis. Et puis après, je trouve que au-delà de l'auteur en Colombo, que j'adore, il y a des portraits, mais extraordinaire. Et là, tu as raison, on est dans Modiano. D'ailleurs, le père de la victime rencontre Albert Modiano, le père de Modiano, mmh. Et on est exactement dans ces espèces de personnages interlopes qui n'arrêtent pas de mentir. On sent qu'ils ont quelque chose à se reprocher. La mère du petit garçon assassiné, elle est géniale. Elle aussi, on dirait que c'est une héroïne de Modiano. Et puis, il y a le portrait du petit garçon. Et là, je trouve qu'il arrive aussi à tout d'un
sublime.
Coup à être extraordinairement émouvant avec ce petit garçon dont finalement tout le monde se fichait. Moi, j'adore.
Alors, il cite beaucoup Modiano et vous aussi. Modiano fait au maximum 150 pages.
Hein. Ah bah oui.
Les années fastes.
Pourquoi est-ce que Modiano fait 150 pages? Parce qu'il pense qu'il est important de couper. Geneda ne sait pas abréger.
Et pourtant, oui. Il raconte qu'il a coupé. Il
mais
a quand même
Frédéric,
coupé,
le garçon, il a passé 15 074 jours en prison.
Oui, d'accord.
Donc tu peux pas faire ça en 150
pages. Oui, tu peux aussi dire que. Oui, tu peux aussi dire que
le. C'est un argument de lecture, ça.
Non, quand même.
Non, je me suis demandé si c'était pas parce que le petit garçon.
Le type s'appelle Lucien Léger. T'es obligé de faire un livre lourd.
Voilà,
quoi,
d'accord. Et aussi, le petit garçon est mort étouffé. Donc peut-être qu'il a voulu donner cette sensation au lecteur. La sensation de l'étouffement. Peut-être. Moi, j'adore Geneda, comme vous. On lui a donné le prix de Flore en 97 pour Le Chameau Sauvage, son premier roman, et je suis fanatique de Geneda. J'adore surtout ses parenthèses, ses digressions, et les meilleurs moments du livre sont peut-être ceux où il parle de lui, de sa maladie, de son âge, du fait qu'il est né le premier jour de la mort de ce petit garçon.
On pourrait résumer ça, c'est un type qui passe 800 pages à raconter comment il a arrêté de fumer. C'est l'autre résumé
tout
qu'on
ça,
pourrait faire du
tout
livre.
Ça, c'est très bien. Mais... tous les écrivains qui racontent des faits divers citent tout le temps Truman Capote. Là, je suis désolé, il faut le dire à Philippe, parce que c'est un ami. Il faut lui dire, attention, ça devient du Pierre Bellemare. Il faut faire attention.
Nelly, je t'ai gardé pour la fin, si
j'ose
dire.
Oui, parce que moi, je l'ai gardé pour la fin aussi. Et je l'ai ouvert il y a pensant qu'il faisait 350 pages. J'ai juste le document PDF sur mon ordinateur. Et j'ai commencé 100 pages. Et tout d'un coup, quand je l'ai repris hier soir, j'ai vu qu'il me restait à peu près 650 pages à lire.
Oui.
Et j'ai compris que c'était impossible, même si j'y passais la nuit.
Oui.
Ah oui, c'était comme une la brouette, comme ton histoire de brouette, même
non,
jusqu'à 4 heures du matin.
Non, mais effectivement, moi j'ai passé 10 jours aussi.
Mais les 100 pages.
Donc, non, moi j'ai aimé les 100 premières pages, mais c'est vrai que je me demandais un peu où ça allait. Je suis moins familière que vous avec l'œuvre de Geneda, mais c'est vrai que la façon dont Olivier en parle, ça me donne plutôt envie. Voilà. Moi j'aime bien les obsessionnels.
Mais franchement,
il m'a l'air complètement obsessionnel.
Il y a des répétitions, il y a beaucoup de répétitions. Ouais. Il répète plusieurs fois comment l'enfant était habillé, On a l'impression qu'il veut, il veut être exhaustif.
Oui, mais non, parce qu'à chaque fois, c'est pour une bonne raison. C'est comme le
dictat
d'Hemingway.
La manière dont l'enfant est habillé est cruciale. Quand on arrive à la fin du livre,
il faut arriver à la fin du livre. La couleur du polo, tout ça est crucial.
Tu pourrais le faire en moins de pages.
Non, en prenant
le lecteur pour quelqu'un d'intelligent.
Mais non, parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est pas simplement le diable qui se cache dans les détails, c'est aussi le bon Dieu. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait la force du livre, c'est précisément qu'il soit extrêmement détaillé.
C'est au
et
printemps des
long,
monstres,
et
c'est
fois.
Aux éditions Mialet Barreau, ouais. Et c'est signé Philippe Geneda, premier sang chez Albin Michel, le 30e et sans nul doute le plus personnel roman d'Émilie Nothomb, dont le père Patrick Nothomb, diplomate belge, est mort le 17 mars 2020, premier jour du premier confinement. Mais je le précise, il n'est pas mort du coronavirus, mais d'une rupture d'anévrisme. Ce père, Amélie Nothomb, le fait revivre à la première personne, il fallait oser, dans un roman en forme de conte. C'est donc lui, Patrick Nothomb, qui raconte son enfance, une enfance d'aristo désargenté, je rappelle qu'il est baron, il était baron, sous l'autorité implacable du grand-père. Alors le grand-père, Pierre Nothomb, poète catholique, nationaliste, assez monstrueux, il faut dire, qui empêchait ses enfants, de bouffer, mais à part ça, très gentil. Le même qui, évidemment... a condamné le mariage de son fils, Pierre Nothomb, avec une femme parce qu'elle n'était pas de son milieu. Et puis, surtout, les débuts dans la carrière au Congo, les débuts diplomatiques de Patrick Nothomb. Et les débuts, bah, c'est le jeune consul à Kisangani, alors Stanleyville, où il est confronté en 64, toujours, décidément, 1964, on y revient, à une terrible prise d'otages. Je vous rappelle qu'il y avait presque 1500 otages occidentaux, essentiellement belges, et qu'il a dû négocier avec l'armée populaire de libération avant qu'interviennent les parachutistes belges. Et cette scène-là, cette longue scène, où il va être d'ailleurs menacé par un peloton d'exécution, ouvre et clôt, je n'en dis pas plus. Hein.
Il y a eu 30 morts, hein. Il y a eu 30 morts occidentaux, 30 morts, dans cette fusillade.
Et beaucoup de blessés. Donc voilà, c'est vrai que c'est très... Un an après, elle n'a pas fait ni un tombeau, ni un éloge funèbre de son père. Elle a fait « Je suis Patrick, Amélie Nothomb, Frédéric ».
C'est éblouissant. J'étais très bouleversé par ce livre. Je trouve
décidément les masques de rentrée ne se ressemblent pas.
Oui, parce que les livres se ressemblent pas.
Non,
mais c'est souvent les mêmes auteurs, mais Amélie Nothomb, elle sait se renouveler.
N'écrivent pas le même livre.
Et non, ça dépend. Mais Amélie Nothomb, là, elle se renouvelle énormément. Et en même temps, ça reste dans sa veine, puisque c'est un conte, comme tu l'as dit, une sorte de conte familial où elle transforme la vie de son père en...
Et puis, contrairement à Génada, c'est toujours court, hein, 140 pages.
C'est pas 750 pages. Ça m'a davantage plu. Il y a un côté, La gloire de mon père, c'est vraiment le contraire de Christine Angot. Pour le coup, elle arrive... Elle a pas été privée d'amour. L'amour d'Amélie Nothomb pour son père n'a pas été détruit. Et donc il est là à chaque page. C'est très très beau.
Sauf qu'on ne peut pas le savoir puisque en fait le livre se termine avant sa propre naissance.
Oui, bien sûr. Elle se met deux ans à la avant première sa personne dans la peau de son père. Alors il y a des phrases comme toujours un peu marrantes. Elle dit par exemple le château dans les Ardennes de la famille. C'était pas un château fort, plutôt un château faible. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi, la description de la neige. La forêt supportait un tel poids de blancheur que certains arbres baissaient les bras. L'histoire de la fusillade et de la prise d'otage de Stanleyville, moi, je la connaissais pas. Je dois dire que ce qui m'épate, c'est que quelqu'un dont le père a vécu ça attende 30 livres pour le dire. Et ça, je trouve que c'est...
Voilà, son dans père un monde d'exhibitionnisme,
c'est assez son père a écrit tout
incroyable.
Un livre qu'elle signale à la fin sur la prise d'otage de Stanleyville.
Oui, c'est la raison.
Et je rappelle aussi qu'à l'époque de cette prise d'otage, il n'avait que 28 ans, Patrick Nothomb. Ouais.
Non, mais c'est très beau. Il y a beaucoup de livres sur les pères au programme de l'émission, puisqu'il y a aussi le livre de Marc Duguin. Et voilà.
Tout ça est très très bien concocté.
Oui, c'est bien fait.
Nelly.
Pour une fois, j'ai adoré l'Amélie Nothomb. À chaque fois, je suis un peu gênée au mât. Je parle de ses fraises, je parle de son loup. Je dis toujours qu'elle est bien. Tu sais, ce espèce de jabot autour du cou, très 18e, qu'elle veut... à chaque fois, voilà, tu me forces à en parler. Qu'elle veut relancer. Je suis toujours avec Amélie pour relancer les fraises.
On est tous pour relancer les fraises.
Mais là, je vais arrêter de parler des fraises, puisque j'ai adoré ce livre. Et là, je rencontre aussi, Amélie Nothomb. Là,
incroyable. Les Un Rock aiment Nothomb et Le Figaro aime Angot. C'est n'importe quoi, cette émission.
Et donc, moi, je ne le trouve pas du tout mélancolique, ce livre. Je trouve qu'on
ne
pourrait pas savoir qu'il est mort au début.
Absolument.
Enfin, je le trouve d'une
Et même drôle, gaieté, très drôle.
D'une drôlerie.
Parce que toute la vie dans le château des Ardennes,
non, mais
incroyable.
C'est très drôle. On va t'envoyer chez les Nothomb pour que tu apprennes un peu la vie et que tu t'endurcisses un peu. Il arrive déguisé en petit lord de Fauntleroy avec sa petite valise chez une bande de sauvages où on découvre cette aristocratie. Je ne sais pas s'ils sont complètement désargentés ou un peu chiches.
On sent que ça manque un peu d'argent.
Et
quand
là,
même.
On tombe justement dans un château de comte, comme tu disais, mais c'est surtout son emploi, c'est les dialogues.
Où les toilettes sont appelées le Trianon.
Voilà, c'est son emploi de formule complètement désuète qu'elle fait exprès. C'est vrai que dans les interviews, des fois, elle a un phrasé extrêmement élégant, quasi un peu désuet. Mais là, ça devient des formules dont elle joue qui sont hilarantes. J'ai adoré ce livre.
Olivia ?
Oh ben moi, j'ai adoré aussi. C'est une sorte de traité de vie et de traité de survie. C'est vrai que c'est complètement gonflé d'écrire la vie de son père à la première
personne.
Personne,
je crois, ne l'avait fait, ça.
Alors, quand on lui pose la question, elle dit non, mais en fait, c'est normal, parce que quand j'étais petite, on me demandait comment je m'appelais, et je disais, moi, c'est Patrick. Donc, on trouve là toute l'extravagance d'Amélie Nothomb. Et puis, je trouve que c'est un livre fascinant, parce que on trouve dans ce livre les racines de la personnalité extraordinaire d'Amélie Nothomb. On comprend son rapport délirant à la nourriture, elle qui a écrit un livre qui s'appelle « Biographie de la faim », puisque le petit garçon,
où son père apparaissait déjà, d'ailleurs.
Exactement, était envoyé donc chez les Nothomb, où en fait les enfants n'avaient rien à manger. Les plus grands étaient servis les premiers, et puis au fur et à mesure que le plat était vidé, les petits enfants n'avaient absolument rien à manger.
Il restait à peine du pain, d'ailleurs.
C'est une éducation darwinienne. Exactement,
darwinienne. Éducatif.
Donc ça, c'est la première chose. On découvre aussi, je trouve, l'extraordinaire courtoisie et générosité d'Amélie Nothomb, qui a un rapport à l'adversité et à la méchanceté complètement singulier, et qui, en fait, est celui de son père. Et je me suis même demandé pourquoi cette manière qu'elle avait d'écrire un livre par an, c'est le 30e en 30 ans, n'était pas née de cet épisode de son père pendant cette prise d'otage, qui pendant 4 mois, tous les matins on lui disait « vous allez mourir », et lui, il a repoussé la mort par les mots, en racontant des histoires. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose
comme ça. Scheherazade Nothomb.
Exactement. Dans sa manière d'écrire toujours et encore, qui provenait de là.
Prise d'otage qui a duré d'août à novembre, hein, 4 mois, c'est quelque chose d'assez impressionnant.
Il ne faut pas trop raconter parce que c'est vraiment extraordinaire. Non, mais
je ne raconte pas la scène finale. Arnaud.
Ce n'est pas le premier livre autobiographique d'Amélie Nothomb, parce que Stupeur et tremblement en était un autre.
Sûr.
Mais celui-là.
Elle avait écrit quand même un livre qui s'appelait Tuer le père.
Hein. Oui, et celui-là, Mais quand même, elle est plus connue pour son art de la fiction. C'est une grande raconteuse d'histoire. Et quand on. Parce qu'en fait, le livre, il n'y a pas d'information, le quatrième de couverture, c'est juste une phrase. On ne sait pas ce qu'on va lire finalement en premier sang. Quand je lis le premier chapitre, je n'étais pas au courant du sujet du livre. Ça commence comme une fiction. Un type va se faire fusiller et il nous parle. Donc comment se fait-il? Comment va-t-il s'en sortir face au peloton d'exécution? Donc on se dit, ça y est, c'est un roman. Et puis, bon, deuxième chapitre, on tombe sur le nom de Nothomb. Et là, on se dit, ok, donc c'est un livre sur son père. Mais encore une fois, au départ, ce qui est formidable, si vous voulez, on va parler du livre de Duguin sur son père. C'est pas du tout la même chose. C'est qu'elle ne raconte finalement que 2 épisodes dans la vie de son père. C'est-à-dire, ses vacances enfants dans cette famille dont vous avez parlé, et puis la situation où il a failli se faire...
Enfin, il y a aussi tous les rapports avec sa mère.
Oui, absolument.
Qui occupe une grande part.
Non, mais
qui
c'est,
sont,
encore une fois, c'est un livre très court. C'est un livre qui parle de son père. C'est une sorte de tombeau du père, un travail de deuil, etc., tout ce qu'on veut. Mais encore une fois, elle ne cherche pas à raconter toute l'histoire de son père. C'est ça, c'est qu'en fait, l'art de la romancière est quand même là tout le temps. C'est ça que je trouve extraordinaire avec ce livre, c'est que c'est un livre vrai, biographique, et pourtant, il relève encore une fois d'une sorte de fiction et d'un art du roman. C'est là le tour de force d'Amélie Nothomb, qui décidément est un grand écrivain.
Premier sang, je ne sais pas ce que vous avez bu ce soir, mais en tout cas, premier sang, chez Albin Michel, c'est signé Amélie Nothomb. Autre roman très personnel et proche dans l'esprit, en tout cas, c'est La volonté de Marc Duguin chez Gallimard. L'auteur d'Une exécution ordinaire fait ici le portrait de son père, aujourd'hui disparu, dont la vie fut, il faut dire, très romanesque. À l'adolescence, la polio lui a fait perdre pour toujours l'usage de sa jambe gauche et l'a empêché de devenir, comme ses aïeux bretons, marin au long cours. Donc il est devenu ingénieur, spécialisé en physique nucléaire et en chimie des sols. Et il est parti vivre en Nouvelle-Calédonie, puis au Sénégal. Et c'est là, au Sénégal, que Marc Duguin est né en 1957. Duguin qui se demande, lorsqu'il travaillait pour l'industrie nucléaire, si son père n'a pas été recruté par les services secrets français. Pendant ce temps-là, la mère, elle bossait pour le marché de l'eau. Et elle partait pour l'Algérie et l'Irak. On comprend mieux pourquoi Duguin est devenu romancier. Je signale aussi qu'il est également réalisateur. Et que son adaptation d'Eugénie Grandet avec Olivier Gourmet et Valérie Bonneton sortira au cinéma le 29 septembre. Arnaud.
Eh bien là, donc c'est le contraire du projet d'Amélie Nothomb, c'est vraiment de raconter toute l'histoire de son père, de sa naissance à sa mort. Ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que je pensais en lisant ce livre, il y a un mot qui pratiquement plus personne n'emploie, qui est quasiment devenu ringard, que aucun homme politique ou femme politique n'emploie, c'est le mot d'humanisme. Et je trouve que franchement, s'il y a quelque chose qui est là, profondément là, dans ce livre, c'est la notion d'humanisme. C'est pas simplement l'histoire du père de Marc Duguin, c'est l'histoire de la France, voire voilà, du monde, dire, oui. Depuis la Première Guerre mondiale, jusqu'à, disons, la fin des colonies. Et toujours, alors on retrouve évidemment des choses dont, maintenant, son grand-père, gueule cassée.
La Chambre des officiers.
Évidemment, c'est la Chambre des officiers. Il est beaucoup question des États-Unis et on sait que Marc Duguin a beaucoup écrit.
Ils vont tuer Robert Kennedy,
voilà, il y a toujours, chez Marc Duguin, une vision contre-historique. Il y a une faculté à écrire une contre-histoire des événements. Je pense, par exemple, il a beaucoup écrit sur les Kennedy et la manière dont, à son avis, ils ont été absolument liquidés avec l'aide de la CIA. Ce qu'il dit sur les colonies, sur la colonisation, c'est très fort. J'ai toujours pensé que c'était un immense journaliste, un immense éditorialiste, Marc Duguin aussi. Et là, il y a ce récit très fort, très personnel. Et puis, cet homme atteint de la polio et ce couple qu'il forme avec sa femme, c'est la première fois que je rencontrais cette expression de couple forteresse. C'est-à-dire qu'ils s'aiment tellement qu'ils se préfèrent même à leurs enfants, quasiment, préfèrent leur amour à l'amour de leurs enfants. C'est vraiment un livre très fort et, encore une fois, extrêmement humaniste.
Frédéric.
Je me demandais à quel moment il allait arriver à dire « je », parce qu'il n'y arrive pas. C'est un livre très élégant. Il n'arrive pas à parler de soi.
Or, c'est le premier où il parle de soi.
Oui, et en parlant de son père, alors finalement, il le dit, « je l'ai raté de peu, on me l'a arraché, je voulais tuer le père qu'il n'était pas ». Très belle formule. Mais quand même, avant que ça arrive tout à la fin, l'écriture semble paralysée par l'enjeu. Et je trouve que parfois, c'est un peu trop solennel, un peu trop sacré. Ça m'a empêché, moi, d'entrer complètement dans le récit, parce que je crois qu'il est peut-être un peu tétanisé par le respect pour cet homme assez incroyable.
Il est mort il y a 15 ans, je crois qu'il a mis du temps à écrire ce livre.
Et je trouve que la scène d'ouverture à l'hôpital, où il est en train de mourir, où il réclame du champagne, alors qu'il ne peut même plus boire quoi que ce soit, dans le pavillon des cancéreux, est une scène qui n'est pas du tout solennelle, moi je la trouve, et qui veut l'aider à partir, quoi. Et c'est une scène que je trouve très forte.
Alors à la fin, il parle même de sa naissance, il s'appelle le cadet, et donc il parle de lui à la troisième personne,
c'est le cadet. Il raconte sa propre naissance à Dakar.
Tout ça est assez original.
Il se livre parce que la manière dont il fuit un moment, oui. Parce qu'il est quand même.
Oui, là, on aurait dit Arnaud Vivian Jeune. Il est à la fois de tout. Il abuse des stupéfiants. Il va dans les.
Il était bien punk, le jeune Marc Duguin.
Il a les cheveux longs.
Il y a une scène que j'ai adorée. C'est la scène où le père rencontre sa mère. Ils se rencontrent dans un train. Et elle est en train d'essayer de résoudre des équations mathématiques, elle n'y arrive pas, et lui, il la connaît pas, et il met les solutions, il écrit juste au crayon les solutions des équations. C'est comme ça qu'ils ont fait connaissance.
Olivia.
C'est un livre extrêmement douloureux. Moi, je trouve pas du tout que ce soit solennel, mais que c'est très très pudique. Sans doute est-ce pour ça qu'il ne dit pas le jeu, en tous les cas, dans la deuxième partie du livre. C'est l'histoire de France, mais c'est aussi un livre sur le très difficile affranchissement. Comment est-ce qu'on peut être le fils de ses parents ? Et à deux reprises, parce que c'est comment son père a pu s'émanciper de ses parents-là, et comment lui-même a dû s'émanciper de ses parents-là. Je trouve que c'est ça aussi qui est très intéressant. Tu parlais du mot « humanisme ». Le mot de volonté est aussi un mot complètement galvaudé qui a été balayé par l'éducation positive. Personne ne parle plus de la volonté. Et je trouve que c'est un très beau mot.
Ah bon, on ne dit plus de volonté.
La volonté, c'est presque...
C'est banni,
non, ça.
Ça
ne se fait plus, non.
Ah bon, c'est tabou.
Et je trouve que la volonté de ce jeune homme qui était condamné à être immobile, à remarcher, la rencontre avec le médecin, tout ça est d'une beauté.
C'est une scène où il est en train de braconner, il a 16 ans, il est en Bretagne, pendant l'occupation allemande.
Absolument.
Et tout d'un coup, il ne peut plus marcher.
Il ne peut plus marcher.
C'est très bien raconté.
Et on va découvrir qu'il a été victime de la polio, et pendant la guerre, il va être soigné par un médecin qui d'ailleurs le fait par pur altruisme, là aussi, aussi peut-être par la volonté de soigner, parce que c'était une opération très délicate qu'il a effectuée sur cet enfant. Oui, je parlais de l'émancipation parce que c'est une des rares fois où j'ai lu dans un livre comment la réussite d'un enfant tétaniser à ce point la mère, et comment à partir du moment où son fils réussit, la mère va sombrer dans l'alcoolisme et dans le désespoir.
Symbolique sur la Bretagne aussi. Hein.
C'est très très beau. Ouais. Et puis après, comment lui va devoir devenir Marc Duguin avec des parents si admirables.
On a encore un livre à évoquer, Nelly.
Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai lu deux livres, en fait, un que j'aime beaucoup. Et un sur lequel, enfin que j'aime bien, mais sur lequel j'ai quelques réserves, c'est-à-dire moi tout l'aspect du père, j'ai l'impression un peu, enfin Frédéric, tu disais c'est un peu grandiloquent, il est peut-être un peu intimidé. On peut aussi parler de pudeur, en effet, comme tu disais Olivia. Moi j'ai eu l'impression que des fois il allait très très vite, il avait peur de s'apesantir. Et je trouve l'écriture est parfois un peu trop factuelle, un peu trop catalogue des mots du XXe siècle. C'est-à-dire que des fois, par exemple, ils partent en vacances en Australie, tout d'un coup, il y a une digression sur les aborigènes massacrés par les Blancs, et là, on ne sait pas, mais ils sont partis en vacances. Enfin, donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on est avec les aborigènes ? Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un peu trop une volonté comme ça. Et puis, je trouve que le parti pris narratif est quand même un peu digne d'un débutant, c'est-à-dire que commencer à raconter l'histoire de son père quand il est à l'hôpital, son père est mourant. En effet, j'adore aussi, comme toi, Jérôme, cette scène où il demande du champagne et il s'installe avec quelqu'un qu'il reconnaît et il va lui raconter l'histoire. Bon, ça, pour moi, c'est un peu... voilà, je pense que quand on a un écrivain comme Duguin, un peu rodé, on fait plus ce genre de... On n'utilise pas ce genre d'artifice narratif. Je pense que c'est pas la peine. Alors, en revanche, moi, le livre que j'ai aimé dans le livre, c'est au fond, c'est Duguin règle ses comptes avec le XXe siècle. Je l'ai découvert, là. J'ai découvert Duguin, j'ai découvert une personnalité extrêmement attachante. Je trouve qu'il voit le XXe siècle avec un humanisme. L'humanisme dont tu parlais, Arnaud, c'est le sien, en fait.
Oui,
et je trouve que très souvent, on n'est plus dans la vie... Enfin, c'est la vie de son père, mais ce n'est pas vraiment ce que pense son père. Ce sont les pensées de Marc Duguin. Mmh. Et là, je l'ai trouvé absolument magnifique.
La volonté Marc Duguin chez Gallimard. On va être rapide, je suis désolé, mais vous avez été trop long, comme dirait Genada. c'est donc le premier exil de Santiago Amigorena chez POL, le nouveau volet de son œuvre autobiographique. On n'en sort pas. D'ailleurs, à la fin du volume, il dresse la liste et le plan, on se croirait chez Proust, hein, de son projet. Et là, il raconte comment, à la fin des années 60, on ne quitte pas toujours les années 60, il a fui avec ses parents psychanalystes son Argentine natale, où un général avait fomenté un coup d'État, pour aller vivre en Uruguay jusqu'au jour de 73, où sa famille s'est exilée à Paris, l'Uruguay, qu'il compare d'ailleurs à la Suisse de l'Amérique latine, alors en proie à plusieurs dictatures. Et c'est à Montevideo qu'Amigorena, il avait pourtant qu'une dizaine d'années, hein, et il répète que c'était un enfant taiseux, reconnaissable à son mutisme et à sa beauté, parce qu'il ne se déteste pas dans ce livre. C'est là qu'il a appris à écrire et qu'il a su, donc à 10 ans, qu'il deviendrait écrivain et que de, je le cite, de tétard graphophile, il se transformerait en gros crapaud graphomane. Il n'a jamais autant été que dans ce livre, graphomane. Nelly.
Moi, j'adore de toute façon tout le travail d'Amigorena et toute cette œuvre tentaculaire, en effet proustienne, sur lui, je la trouve magnifique. Et là, ce qu'il dit de l'exil, ce qu'il dit de cette enfance totalement étrange, où il doit, tous les jours, il va chez le psychanalyste et chez le dentiste, à 6 ans.
Et il mange
ans.
Tous les jours des escalopes milanaises.
Voilà, c'est sa troisième obsession. Il se perche sur un arbre.
J'ai finalement plus de points communs avec lui que je le pensais.
Voilà. Et, bah oui, toi aussi, dentiste et psychanalyste, tous les jours à 6 ans.
Il pensait aux escalopes milanaises.
Ça explique beaucoup de choses.
Non, j'ai absolument adoré, mais là encore, je trouve, et toute cette rentrée, c'est quand même un thème qui est la lâcheté, le courage. Qu'est-ce qu'on fait dans des situations atroces? Il y a une scène qu'il raconte où ses parents l'emmènent voir des amis à eux dont le fils a été libéré de prison. Et le gamin, le jeune homme arrive, il retrouve chez ses parents sa femme et son petit garçon. Il n'arrive pas à manger ce que sa mère lui a cuisiné parce qu'il dit « ils m'ont torturé pendant 3 jours, j'ai tenu bon pendant 3 jours. Le quatrième jour, ils m'ont fait croire que c'était ma femme et mon fils qu'ils torturaient et là j'ai tout lâché. » Il rentre, il voit que évidemment c'était pas vrai, il s'en réjouit, mais à la fois... Voilà, là, il est complètement détruit aussi. Donc, je trouve qu'il y a une thématique dans cette rentrée, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur, comme ça, les maux du XXe siècle, les dictatures,
ma chère
les
Nelly,
guerres.
Il y a 520 romans, donc je ne me lance pas dans la généralité avant d'en avoir lu au moins un dixième.
Moi, je les ai tous lus.
Frédéric.
J'avais préféré le précédent.
Le sujet était plus fort. Hein,
oui, le ghetto intérieur.
Le ghetto aussi, le ghetto de Varsovie.
Là, bon, c'est six années de l'enfance d'un... franco-argentin, uruguayen,
graphomane.
Ça fait penser à ce film d'Alfonso Cuarón qui s'appelle Roma, qui a eu beaucoup d'Oscars. C'est-à-dire que c'est à la fois très beau et assez immobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des très bien photographiés, des plans séquences somptueux. Bon, c'est comme ça. C'est une très lente mémoire fixe de Montevideo dans les années 70. C'est ça, hein,
60.
Oui, 60.
Fin des années 60.
Voilà. Donc, c'est un peu comme dans les documentaires. Vous savez, quand on montre une photo dans les documentaires, on filme une photo, ça s'appelle un banc-titre. Bon, ben voilà, c'est un roman banc-titre.
Olivia ?
Ah ben, ce roman est le contraire du précédent, qui était très court et très gracieux. Là, c'est un livre au ton parfois assez déplaisant, c'est un livre rugueux, dans lequel il ne s'épargne pas, et puis en même temps, il se cite beaucoup, et en même temps, je trouve que c'est un livre fascinant, parce que complètement obsessionnel. C'est un homme qui veut tout raconter, le passé, le présent, lui, les autres, mais tout raconter pour tout oublier, et pour retrouver le petit garçon qu'il était avant de savoir écrire. Pour moi, c'est beaucoup un livre sur le langage. D'ailleurs, il observe une chose très intéressante. Il dit qu'on apprend aux enfants à écrire, mais que finalement, on leur apprend pas à parler, parce que les enfants apprennent tout seuls. Moi, je trouve que ça, c'est très beau. Et puis, il y a des souvenirs de la petite enfance, notamment quand il raconte ses cauchemars. Pourtant, je déteste quand les gens racontent leurs cauchemars ou leurs rêves. Là, il y a un cauchemar. Il se réveille dans une maison vide. J'ai trouvé ça prodigieux.
Il abuse un peu, si vous permettez, et constamment des mots en italique qu'il veut, sur lesquels il veut insister, appuyer. Arnaud.
Moi, je dirais qu'il abuse tout court, hein, mais bon, ouais, y a des trucs qui me font rire, hein, quand quelqu'un écrit, j'écris pour ne plus écrire, moi, j'ai envie de lui dire, bah, écoute, je te lis pour plus te lire. Ça va être assez vite réglé, cette question. Enfin, il y en a des rôles comme ça où il écrit, j'écris pour moi-même et mes amis. Ben écoute, gars, envoie le par mail et en PDF à tes amis. Hein, on va vite. Non, voilà. Je trouve que, si vous voulez, quand les gens expliquent comment ils sont devenus écrivains, il y a toujours, depuis les mots de Sartre, ce genre-là, commence à faire assez vieux gens.
Non, mais c'est pas que ça.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est il y a un prière d'insérer, mais qui en soi, aller en librairie, piquer le, parce que le prière d'insérer, c'est un petit bout de papier. Il raconte que donc il est en train d'écrire une œuvre monumentale. Ça fait 30 ans qu'il y travaille.
Intitulé Le Dernier Livre.
Proust voulait faire une cathédrale avec la recherche, mais lui, visiblement, il veut faire un porte-avions. Il y a des livres qui décollent d'un peu partout. Ils ne sont pas tous écrits, d'ailleurs. Il y en a un qui est... Celui-là, Réponse, c'est une partie d'un livre qu'il a écrit il y a 20 ans. Il va falloir qu'on reprenne tout le projet d'Amigo Reina dans l'ordre, etc.
Mais non.
Pour essayer de bien comprendre.
C'est le chapitre 1 de la deuxième partie intitulée Une jeunesse à faune. C'est pour ça qu'il parle du fait qu'il ne parle pas.
Mais pas si à faune que ça.
Mais c'est un univers. Moi j'adore comme ça.
Oui, c'est
un verre de Santiago Amigo Reina.
Eh bien,
il écrit ses divinement. Amis, il l'a dit.
Le premier exil, Santiago Amigo Reina, et c'est chez POL. Allez, un conseil pour terminer cette émission, je le disais, 520 romans. Que va conseiller Olivia ?
Un premier roman ?
Très bien.
Les Envolées, d'Étienne Kern.
Formidable.
Un petit livre singulier de deux hommes prisonniers de chimères, deux tailleurs, dont Franz, qui est arrivé de Bohême et qui est obsédé, lui aussi, c'est un obsessionnel, par l'idée d'inventer un parachute. Et cet homme, en 1912, va monter au premier étage de la Tour Eiffel et va sauter avec le parachute qu'il s'est fabriqué et ne va pas en réchapper. Il y a un film qui est premiers films.
Il avait convoqué, en fait, pour tout dire, la presse et les caméramans, les deux caméramans de Pathé.
Et il y a quelques secondes de film qui sont lues.
Qui a fait dire à François Truffaut que c'était la première victime du cinéma.
Absolument. Mais c'est en tous les cas l'un des premiers films où on voit la mort en direct. Et ce film obsède Étienne Kern et qui va en faire un prétexte pour raconter cette histoire, pour raconter aussi une histoire d'amour et puis pour se souvenir de son grand-père et d'interroger le rapport que nous avons avec nos morts et nos disparus. C'est tellement délicat. tellement joli et je trouve paradoxalement léger sur un sujet qui ne l'est pas du tout.
Oui, parce que c'était un peu grotesque quand on le voit d'ailleurs sur ce film avec cette.
Les images sont incroyables.
On dirait une chauve-souris matelassée, quelque chose qui.
Peut-être Charlie Chaplin qui aurait voulu.
Absolument.
Ou Buster Keaton qui aurait voulu devenir un homme parachute. Voilà. Un livre merveilleux, je trouve.
Absolument, très
bien.
Les Envolées, Étienne Kern, c'est chez Gallimard. Le conseil de Nelly.
Alors, c'est un deuxième roman. Son premier avait reçu le prix Goncourt du premier roman, qui s'intitulait Marx et la poupée. Et là, Mariam Majidi signe donc son deuxième roman qui s'intitule Pour m'aimer encore, chez Au Nouvel Attila. Elle est iranienne, elle est pas immigrée, elle a été exilée, enfin ses parents ont été exilés, se sont exilés de Téhéran. Et là, elle raconte une enfance à Drancy. De façon, alors c'est à la fois très cruel, parce que ça met en scène extrêmement de précarité, de pauvreté, etc., mais de façon assez drôle, très touchante, et par le prisme de l'école. Donc c'est comment tous les élèves, comment leur interaction entre eux, d'où ils viennent, la hiérarchie, enfin, les hiérarchies qui se créent. Elle raconte, elle nous emmène jusqu'en classe de prépa, où là, voilà, est-ce que tout le monde, la question c'est est-ce qu'on a tous les mêmes chances, qu'on vienne de banlieue, qu'on vienne de Paris, en classe de prépa, face à, à la...
Le titre, Nelly ?
C'est Pour m'aimer encore, au Nouvel Attila.
Mon conseil, c'est un premier roman, ça s'appelle La Dame couchée, de Sandra Van Bremersch. Au seuil, pendant près de 20 ans, elle a été l'assistante de vie à Meudon de Lucette Destouches, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, qui est morte en 2019. Elle avait 107 ans et elle raconte comment la vieille dame régnait sur cette cour composée d'académiciens, de comédiens, de chanteurs, on les voit tous passer, souvent sous des noms d'emprunt, et dont le grand chambellan était l'avocat et biographe François Gibault. Et le hasard fait que ce livre...
Oui,
hasard ou nécessité, paraît juste après ce qui a été l'événement littéraire de l'été, c'est-à-dire l'enquête du Monde révélant que des milliers de pages inédites volées chez Céline en 44 ont été retrouvées et que peut-être on les lira bientôt. En tout cas là, voilà, c'est l'histoire des 20 dernières années de la veuve de Céline, c'est la Dame couchée, et c'est écrit parfois même de manière célinienne, et c'est signé Sandra Van Bremersch au seuil.
Oui, mais c'est pas un hasard, c'est la mort de Lucette qui a déclenché tout ça. Parce que la veuve n'est plus en vie, évidemment.
Et que
tout
celui
d'un coup,
qui a remis ne voulait pas que Madame Destouches...
Non seulement on retrouve les manuscrits tout d'un coup, mais on peut écrire sur elle plus librement aussi.
Des inédits.
Bien sûr. Alors moi, je suis sûr que vos conseils sont très bons, mais évidemment, c'est nettement inférieur à ce que je propose, qui est un immense roman. C'est le deuxième roman d'Abel Quentin, Le Voyant d'Étampes, aux éditions de l'Observatoire, qui est exceptionnel, qui est le grand roman de la cancel culture, l'histoire d'un prof d'université militant à SOS Racisme, qui écrit un livre sur un poète américain et qui tout d'un coup se trouve confronté à plus antiracistes que lui. C'est la guerre au sein des antiracistes entre la génération d'avant et la génération woke. Et c'est extrêmement drôle, extrêmement libre, extrêmement courageux comme livre, et c'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment époustouflant.
Et c'est aux éditions
De l'Observatoire, Le Voyant d'Étampes.
Le conseil pour finir d'Arnaud.
Alors le sans doute le premier roman le plus drôle que j'ai lu depuis des années, c'est Mon mari de Maud Ventura aux éditions de l'Iconoclaste.
Ouais.
Et là franchement, c'est un pur régal, une grande histoire d'amour. Donc une femme qui est très bien mariée, qui a des enfants, qui a tout pour être heureuse dans la vie, un beau métier, elle est prof d'anglais et traductrice pour les éditions de l'Olivier, tout se passe bien, mais voilà, elle est folle amoureuse de son mari, à tel point qu'elle couche avec d'autres hommes, parce qu'elle s'est aperçue que dès qu'elle couchait avec d'autres hommes, le soir, il couchait avec elle, et à la fin du roman...
La fin est géniale.
Et il y a retournement absolument incroyable, je vous jure,
c'est formidable.
Mon mari de Maud Ventura.
Sous une couverture collector.
Ah oui, couverture géniale,
vintage.
Franchement, foncé,
aux éditions
de l'Iconoclaste.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Nelly Caprielian, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française, et je les remercie, il y avait Bruno Mourlan, Philippe Thibault, Antoine Espel pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 2 septembre. Ce sera à 19h
au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour une émission, une seule émission, consacrée au cinéma. Et on parle dans une semaine de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.